Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'économie collaborative est-elle une impasse? Avec l'économiste Éloi Laurent, notre invité, l'auteur de Nos mythologies économiques, enseigne à l'école de management et d'innovation de Sciences Po et à l'université de Stanford. Il publie aujourd'hui l'impasse collaborative aux liens qui libèrent, un bref essai où il réfléchit sur les valeurs d'échange, de partage, de solidarité dans la crise actuelle pour amorcer une transition sociale et écologique. La croissance n'étant plus source de prospérité humaine, il appelle à changer de cap et c'est là qu'émerge le concept de coopération sociale qu'il nous faut maintenant définir. Bonjour à vous, Éloi Laurent.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Effort de définition, c'est important. Quelle différence, pour vous, en quelques mots, entre la collaboration et la coopération ?
Alors, c'est une des idées importantes du livre, j'espère qu'il est un peu nouvelle, c'est de considérer que, au fond, ce livre s'interroge sur un succès et sur un échec. Le succès, c'est le succès incroyable de l'espèce humaine sur la planète depuis des millions d'années et plus encore depuis 2 siècles. Et ce que j'avance comme idée, c'est que ce qui fait le succès de l'espèce humaine, la prospérité de l'espèce humaine, c'est pas l'intelligence individuelle, c'est pas le génie individuel, c'est pas la générosité de la nature, la puissance du marché, de la croissance, c'est la capacité de coopérer. Et en même temps, c'est aussi une réflexion sur un échec, qui est que l'échec est le suivant. On a le sentiment de vivre un âge d'or de la collaboration, de l'association humaine, de la connexion, de la communication. Et ce que j'essaye de montrer, c'est que derrière ce règne de la collaboration, il y a peut-être une crise de la coopération. La distinction entre les deux vient de l'étymologie. La collaboration, c'est travailler ensemble. La coopération, c'est œuvrer ensemble. Et ce que je pense, c'est que ce qui fait la prospérité humaine, c'est la coopération, c'est-à-dire le fait de partager une connaissance commune, le fait que les humains sont des pédagogues les uns pour les autres et arrivent à s'apprendre quelque chose sans considération d'utilité ou d'efficacité. Et ça n'est pas la collaboration qui est le fait de travailler ensemble pour un objet déterminé et pour un horizon de temps fini. Et ce que je dis très simplement, c'est que en apparence, c'est la collaboration qui fait la prospérité. On vit un règne de la collaboration. En réalité, c'est la coopération qui fait la prospérité. Et je crois que nous sommes dans une crise de la coopération, voilà, qui est au fond une crise de l'intelligence collective.
Modèle de la collaboration qu'on ne cesse de nous vanter aujourd'hui, de l'économie collaborative comme remède aussi à ce qui se joue et aux inégalités qui se sont imposées dans le monde entier depuis quelques décennies.
Oui, c'est plus que ça. C'est-à-dire que l'économie collaborative et la collaboration est devenue une industrie. Moi, il se trouve que j'enseigne aux États-Unis à Stanford. On est au cœur de ce modèle de l'économie collaborative porté par les géants de l'Internet et cette transition numérique qui est censée régler toutes sortes de problèmes. Or, si vous voulez, ce que je crois très profondément, c'est que, au fond, il y a 2 transitions qui nous intéressent aujourd'hui. La transition numérique, qui est engagée, extrêmement dynamique et qui envahit tout. La transition écologique, qui est largement atrophiée, empêcher et mutiler. Au fond, on est bien en train de vivre une transition, je crois simplement que c'est pas la bonne. C'est-à-dire que il y avait aucune urgence à faire la transition numérique. Il y a aujourd'hui aucune urgence autre que l'urgence du profit et de l'efficacité et de l'utilité à tout numériser. Par contre, il y a une urgence à faire la transition écologique. Et au fond, il y a 15-20 ans, on avait en un sens le choix entre les 2 transitions. Quand on entend que la transition écologique, ça a été le mot d'ordre de la démission de Nicolas Hulot, est impossible parce que les gens ne changent pas, parce que les comportements ne se modifient pas, les attitudes ne se modifient pas. On est complètement sidéré de voir à l'inverse à quelle vitesse vont les changements de comportement et d'attitude sous l'effet de la transition numérique. Donc oui, les humains sont parfaitement capables de transition. Le problème, c'est qu'on s'est sans doute trompé d'embranchement, enfin, a parvenu à un embranchement, on s'est trompé de chemin. Et on a choisi la transition numérique plutôt que la transition écologique. Et je crois qu'elles sont de plus en plus irréconciliables.
Alors, est-ce que ce modèle de la transition est aujourd'hui... Vous nous montrez la transition écologique et la transition numérique qui ont l'air de s'opposer l'une et l'autre aujourd'hui. En tout cas, est-ce que cette coopération est totalement innée, nouvelle ? Est-ce que cette transition à laquelle vous appelez est quelque chose de révolutionnaire ? Je vous propose d'écouter les mots de l'économiste américain Milton Friedman, le père du néolibéralisme, sur la coopération dans le crayon.
Look at this lead pencil. There's not a single person in the world who could make this pencil.
Regardez ce crayon à papier. Il n'y a pas une personne au monde qui serait capable de le fabriquer seul. Difficile à croire. Pourtant, c'est vrai. Le bois dont il est fait provient, à ma connaissance, d'un arbre coupé dans l'État de Washington. Pour couper cet arbre, il a fallu une scie. Pour faire cette scie, il a fallu de l'acier. Pour faire cet acier, il a fallu du minerai de fer. Ce sont donc des milliers de personnes qui ont coopéré pour faire ce crayon. Des gens qui ne parlent pas la même langue, n'ont pas la même religion, qui pourraient se haïr s'ils se rencontraient. Quand vous allez acheter un crayon dans un magasin, ce que vous faites en réalité, c'est échanger quelques minutes de votre temps contre quelques secondes du temps de ces milliers de personnes. Qu'est-ce qui a réuni tous ces gens et les a convaincus de coopérer pour produire ce crayon? Il n'y avait pas de commissaire envoyant des ordres depuis un bureau central. C'est la magie du système de prix. L'opération impersonnelle du prix qui les a réunis et amenés à coopérer pour fabriquer ce crayon que vous pourrez avoir pour une somme insignifiante. C'est pourquoi le libre marché est tellement important, non seulement pour promouvoir une production efficace, mais encore davantage pour favoriser la paix et l'harmonie parmi les peuples du monde.
Alors est-ce qu'on n'est pas là, Éloi Laurent, face à un bel exemple de coopération qui nous fait dire ou penser que la coopération a toujours existé ?
Non, je crois qu'on est face à un exemple de collaboration et je pense que Milton Friedman se prend pour Adam Smith. C'est-à-dire que Milton Friedman, par ailleurs, est un penseur original extrêmement contestable, mais là vraiment, il s'inscrit strictement dans la lignée d'Adam Smith. C'est-à-dire que Adam Smith dit deux choses dans La richesse des nations, enfin il dit beaucoup de choses, mais notamment deux choses. La première chose, c'est que s'il y a une division efficace du travail entre les êtres humains, il y aura une augmentation de la productivité qui va conduire à la richesse des nations. Et la deuxième chose, c'est que cette spécialisation et cette division du travail est rendue possible par la main invisible du marché. Bon, Milton Friedman dit exactement ça, sauf que c'est pas une épingle, c'est un crayon. C'est-à-dire, ce qu'il nous explique là, c'est comment le marché favorise la collaboration. Et précisément, je pense que ce qu'il y a d'important en espèce humaine, c'est pas de fabriquer le crayon, c'est ce que le crayon va écrire. C'est-à-dire, ce qu'il y a de fondamental, c'est la connaissance qui va être possible par le crayon. Et ce que je dis dans le livre, c'est que ce qu'il y a d'indéterminé à la source de la prospérité humaine, c'est ce que le crayon va écrire. Cette connaissance qui n'est pas écrite, qui n'est pas soumise à l'utilité et qui n'est pas soumise à l'efficacité. Et en un sens, la division du travail qui multiplie le travail, puisque c'est ça que montre Adam Smith, c'est que quand on divise le travail, on le multiplie. Et cette scène de la manufacture d'épingles, elle est aujourd'hui sur les billets de 20 livres sterling au Royaume-Uni, comme précisément, en quelque sorte, la matrice de la richesse d'un pays comme le Royaume-Uni. Mais ce que perçoit Adam Smith, c'est que cette division efficace du travail peut être appauvrissante socialement. Elle peut être appauvrissante parce qu'elle va isoler les individus des uns des autres. Et que chacun va être rivé à sa tâche. Et que chacun rivé à sa tâche va pouvoir produire des épingles et des crayons en quantité absolument considérable. Mais peut-être qu'en fait, la connaissance va s'atrophier dans ce processus de production en apparence efficace, en réalité appauvrissant. C'est tout le point. Et donc, c'est vraiment fondamental de comprendre ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est à la source? Moi, c'est vraiment ce mystère-là, un mystère joyeux et profondément passionnant. Qu'est-ce qui est à la source de la coopération, de la prospérité humaine, une fois de plus? Est-ce que c'est le fait de se répartir efficacement les tâches et de rechercher l'association des autres par utilité pour l'efficacité? Ou est-ce que c'est au contraire l'association libre, indéterminée, qui permet justement que cette connaissance non écrite puisse s'écrire par ce crayon? Donc, est-ce que c'est le crayon ou est-ce que c'est le trait qui va être tracé par le crayon? Eh bien, moi, je pense que c'est ce qui va être tracé par le crayon plutôt que le crayon qui fait le cœur de la prospérité humaine.
D'où la nécessité aussi de réconcilier le faire avec le savoir. Éloi Laurent, pourquoi mettre dos à dos le numérique et l'écologie au moment même où la Banque de Suède vient d'attribuer son prix à deux chercheurs américains, William Nordhaus et Paul Rome, pour avoir justement réussi à réconcilier les deux en intégrant le changement climatique à l'analyse macroéconomique et aux innovations technologiques?
Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce soi-disant prix Nobel d'économie, qui n'est en effet pas un prix Nobel, puisque Nobel a créé les prix Nobel pour récompenser les gens qui avancent l'humanité. Les économistes n'en font pas partie.
Jamais.
Les économistes aujourd'hui qui font des modèles mathématiques pour démontrer des choses théoriques ou pour démontrer que des choses qui marchent en pratique ne marchent pas en théorie, c'est pas très utile à l'humanité. Donc, si on prend l'exemple de ces deux chercheurs, qui sont estimables, mais qui sont des économistes dans le sens, malheureusement, le plus caricatural du terme. Paul Romer a fait avec d'autres des modèles qu'on appelle des modèles de croissance endogène, en démontrant par des petits modèles théoriques qui sont pas extrêmement éblouissants par leur richesse intellectuelle, qu'il pouvait y avoir un processus dit de learning by doing, où justement il y a un processus d'apprentissage. Mais le point ultime de Romer, c'est pas l'apprentissage pour la prospérité, c'est l'apprentissage pour la croissance. C'est-à-dire que le but ultime de tout ça, toute cette connaissance humaine qui est accumulée par le fait d'apprendre en faisant, c'est pour faire augmenter le PIB. C'est-à-dire la chose la moins intéressante du monde. Et de l'autre côté, vous avez Bill Nordhaus qui fait des modèles d'économie climatique. Je précise qu'il n'y a aucune intersection entre les travaux de Romer et Nordhaus, et que la seule intersection, c'est l'Académie Nobel qui l'a faite en prétendant que finalement la croissance est la solution à la crise climatique. Les modèles de Nordhaus ont juste un petit problème, c'est que ça fait 30 ans que Nordhaus sous-estime de façon absolument massive dans tous ses modèles le coût économique du changement climatique. Donc ce qu'on nous vend comme étant un prix entre guillemets Nobel qui avance l'humanité parce que ça va réconcilier la question économique et la question écologique, c'est le mariage idéologique entre quelqu'un qui sous-estime depuis 30 ans le coût économique du changement climatique et de l'autre, quelqu'un qui considère que la connaissance humaine doit servir la croissance. Donc si vous voulez, et l'Académie Nobel nous bricole ça en nous expliquant que la croissance est la solution à la crise climatique. Nordhaus n'a jamais utilisé les modèles de croissance endogène dans ses modèles climatiques et Romer n'a jamais écrit quoi que ce soit d'intéressant sur les questions écologiques. Donc fondamentalement, c'est exactement une vision idéologique de l'économie. C'est précisément contre ce genre de vision que j'oppose ce livre. C'est-à-dire que ce livre veut revenir à une analyse radicale de l'économie, à une économie radicale, c'est-à-dire à une économie des racines. L'économie, c'est pas la collaboration ou le marché pour la croissance. L'économie, c'est la coopération pour le bien-être. Ce qui veut dire que les finalités doivent changer. Ça n'est pas la croissance qui nous intéresse, c'est le bien-être humain, et le bien-être humain projeté dans le temps. Et le moteur doit changer. Ça n'est pas la division efficace du travail, c'est l'échange de connaissances partagées.
Donc l'économie peut aussi changer le monde.
Ah oui, oui. Malheureusement, pour le pire, bien sûr, l'économie est en train, enfin, change le monde depuis longtemps.
Relégitimez-vous, il faut vous relégitimer avant de poursuivre cette discussion, parce que vous êtes aussi économiste et vous arrivez avec un autre regard à travers justement cette question de la coopération.
Ah mais moi, je pense que c'est très important de revendiquer l'économie, de pas laisser l'économie aux économistes. C'est-à-dire que si on dit l'économie, c'est simplement la croissance, la collaboration, etc. Et ça, c'est de l'économie sérieuse. Et le reste, c'est autre chose. Alors, soit des sciences sociales considérées comme pas sérieuses, qui sont en réalité beaucoup plus sérieuses, soit de la philosophie qui est encore plus sérieuse que l'économie. Voilà, moi, je pense qu'il faut revendiquer absolument l'économie comme contraire à tout ce qui se fait aujourd'hui en économie mainstream. Et l'économie, ça peut être très, très intéressant.
Dans cet essai, Éloi Laurent, l'impasse collaborative, qui paraît donc au lien qui libère, vous appelez à un changement complet de paradigme, à délaisser nos mythologies et nos discours superficiels sur l'économie, comme la croissance, mais aussi la compétitivité ou encore la discipline budgétaire, pour aller vers les vraies questions. Et ça, c'est dans la lignée de vos précédentes recherches, de vos précédents travaux. Il faut donc démystifier l'économisme ambiant, reconquérir les imaginaires. Faut-il pour autant en passer par une remise en cause radicale du capitalisme pour aller vers moins de collaboration et plus de coopération ? En introduction, les mots du prospectiviste américain Jeremy Rifkin, l'auteur de la troisième révolution industrielle, il vient un peu en défense de cette économie, lui, collaborative.
Nous commençons à voir les contours d'un nouveau système économique qui arrive sur la scène mondiale. Ça s'appelle l'économie du partage, les communaux collaboratifs. Et ce nouveau système économique, c'est le premier que l'on voit depuis que sont arrivés le capitalisme et le socialisme au XIXe siècle. C'est donc un événement remarquable. L'économie du partage, elle se développe aux côtés du capitalisme. Parfois, ils collaborent, parfois, ce sont des rivaux. Le capitalisme ne va pas disparaître, mais il va être totalement transformé à cause de ce nouveau système économique. Et je dirais qu'au milieu du siècle, le capitalisme va comprendre à développer cette nouvelle économie, mais ça ne sera plus l'arbitre de la vie économique. Il devra partager la scène avec ce nouveau système. Et l'agent catalyseur, c'est très intrigant, c'est le coût marginal zéro.
On va pas revenir sur sa théorie du coût marginal zéro ici, mais est-ce que cette coopération sociale, elle peut se développer, grandir dans ce cadre-là, dans ce cadre capitaliste ?
À condition d'une redéfinition majeure d'à peu près tout ce qui fait le capitalisme actuel, c'est-à-dire la définition du capital, l'horizon de temps, les rapports de pouvoir, les institutions. Donc oui, en un sens, moi je suis pas très impressionné par les gens qui, une fois qu'ils ont dit capitalisme, pensent avoir tout dit. Bien sûr que c'est très important. Le problème qu'on a là, c'est un problème d'urgence, c'est-à-dire que la biosphère va s'effondrer bien avant le capitalisme, au rythme où vont les choses. Donc il faut redéfinir absolument les finalités du capitalisme, de l'économie, la manière de comprendre les institutions, les pouvoirs, etc.
Là où l'économie collaborative ne redéfinit rien, elle partage effectivement juste la scène.
Si l'économie collaborative est le cœur du réacteur de la transition numérique, je pense que la transition numérique, c'est de plus en plus apparent, est une étape peut-être ultime de la financiarisation du capitalisme. Une fois de plus, si vous regardez la Silicon Valley aujourd'hui et toutes ces grandes entreprises de l'économie du partage et de l'économie collaborative, c'est tout à fait fascinant de voir à quel point elles sont non coopératives. Toutes ces grandes entreprises qui nous vendent cette idée de la connexion, de la communication et de la collaboration sont des entreprises qui font de l'optimisation fiscale, qui refusent de participer au financement des biens communs, qui refusent de participer aux systèmes sociaux et aux systèmes fiscaux, qui ont construit tout un système non coopératif. Donc moi, ce que j'appelle cette transition numérique et les entreprises qui la représentent, j'appelle ça le capitalisme de passagers clandestins. C'est-à-dire cette idée que fondamentalement, on a affaire à des entreprises qui privatisent absolument tous les gains, mutualisent toutes les pertes et refusent de participer au bien commun. C'est quand même très paradoxal de penser que ces entreprises de la collaboration sont profondément non coopératives. Et je pense que c'est plus qu'une coïncidence.
Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un simple dévoiement qui pourrait aussi se produire avec la coopération ? Parce que l'idée de départ, le rêve de départ, c'était quand même le partage qu'on retrouve au cœur de tous les grands discours des groupes de la Silicon Valley. On peut penser aussi à Wikipédia. L'idée, c'était de mettre la connaissance en partage.
Alors, Wikipédia et les grandes entreprises de la Silicon Valley, c'est déjà très très différent comme projet. C'est pas du tout la même chose. On a affaire d'un côté une entreprise qui est non lucrative, donc déjà les notions d'efficacité et d'utilité sont déjà pas du tout les mêmes. Ensuite, Google, non, ça a jamais été le partage. Ça a été la connaissance. La vraie chose bizarre de Google est intéressante. Google qui a été incubé à Stanford, c'est cette fenêtre véritablement, c'est-à-dire la création d'une fenêtre et d'un algorithme. Le problème, c'est que ce modèle-là a été en effet totalement dévoyé, hyper financiarisé, et qu'aujourd'hui, ce qui était un centre d'innovation technologique est devenu un centre d'innovation fiscale et un centre purement financier. Voilà, donc en effet, il y a quelque chose de tout à fait... Mais je crois que c'est plus que ça, c'est-à-dire que la transition numérique, je pense, attaque le principe même de construction de la connaissance commune et de la connaissance partagée. Même pour Wikipédia, si vous voulez, Wikipédia, en tant que tel, c'est pas vraiment de la construction commune de connaissances, c'est de la validation de connaissances. C'est-à-dire qu'on va chercher sur Internet des blocs de connaissances qu'on assemble les uns aux autres et on les fait valider. D'où le fait que le vrai combat sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est pas la question du vrai, c'est pas la question de la connaissance et de l'avancement de la connaissance, c'est la question du vrai et du faux. C'est la question de la validation, beaucoup plus que la question de la compréhension. Et ça, évidemment, c'est je pense un problème. De même qu'est un problème le fait que la transition numérique est une transition nostalgique. C'est une transition qui n'oublie rien. C'est une transition profondément tournée vers le passé. Quand vous voyez l'utilisation des outils numériques par les services de police aux États-Unis, ça vise à enfermer les gens dans leur histoire. Quand vous voyez la façon dont Internet en effet n'oublie rien, ça vise à enfermer les gens dans leurs histoires, parfois dans leurs émotions passées. Donc ça, c'est très problématique pour construire un horizon commun de coopération. De même, l'idée selon laquelle
elle n'oublie rien et elle contrôle tout. On se tourne toujours vers les États-Unis. On pourrait regarder aussi un peu vers la Chine en ce moment.
Bien sûr. Et la manière dont ces soi-disant géants de la connaissance libre collaborent avec des régimes dictatoriaux pour enfermer des gens dans des intranets. En Chine, c'est pas un internet, c'est un intranet dont l'administrateur principal est le Parti communiste chinois.
Donc, cette transition numérique, nostalgique, comme vous dites, Éloi Laurent, elle isole plus qu'elle connecte pour vous aujourd'hui. Mais en quoi la transition numérique est-elle l'ennemi ou l'entrave à la coopération ? Pour ça, il faut peut-être réintroduire un facteur, et vous le développez longuement, qui est le facteur temps. Cette idée du temps court et du temps long que la coopération permettrait peut-être de rétablir là où la collaboration et la transition numérique réduisent nos vies à un temps court extrêmement compressé.
En fait, dans le livre, il y a deux parties. Il y a une première partie qui s'interroge sur les mécanismes de la coopération et qui est en fait une enquête sur l'intelligence collective. C'est une enquête sur ce qui fait l'intelligence collective. perspective. Et la deuxième partie du livre, c'est essayer de montrer quels sont les visages aujourd'hui de la crise de la coopération. Donc d'abord, je parle de l'épidémie de solitude, du fait qu'au niveau individuel, on a des individus de plus en plus isolés. Puis j'essaye d'élargir aux institutions, je parle des nouveaux passagers clandestins, la façon dont, au fond, la concurrence sociale et fiscale se développe. Et puis le troisième horizon le plus vaste, c'est celui du temps. Et dans cet horizon du temps, je dis au fond, la coopération est comme prise en seringue entre une accélération du présent et un obscurcissement du futur. C'est-à-dire que nous sommes dans un malaise temporel parce que d'un côté, le présent est accéléré de façon absolument fulgurante et chaque minute devient monétisée et devient oppressante. Et de l'autre côté, il y a quasiment plus d'horizon collectif. Et donc, on est complètement pris entre d'un côté la disparition du temps libre et de l'autre la disparition du temps long.
Éloi Laurent, économiste, est notre invité à l'occasion de la parution de son nouvel essai, L'impasse collaborative, c'est au lien qui libère. France Culture, il est 13h16.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
Pourquoi la coopération est-elle en crise aujourd'hui? Épidémie de solitude, égoïsme fiscaux, guerre contre le temps, vous venez de le rappeler, Éloi Laurent. Dès lors, il faut agir et notamment en passer par à la fois cette démystification des esprits et des discours, mais aussi peut-être par une réforme des institutions. Pourquoi faire? La non-coopération, écrivez-vous, n'est pas une fatalité. Elle existe parce que des institutions la rendent possible et des autorités refusent de la sanctionner. Il y a un problème aujourd'hui, selon vous, c'est que certains ne joue pas le jeu. Pire, il siphonne le système. Exemple, encore hier, dans l'actualité, avec le scandale fiscal des Cum-Ex Files, révélé par un collectif international de médias, dont Le Monde, impliquant toutes les banques mondiales. C'est le casse du siècle, comme on l'appelle, 54 milliards d'euros subtilisés. Thomas Cluzel, dans son journal, hier, nous en donnait les tenants et les aboutissants.
L'histoire secrète du casse du siècle, l'enquête révélée ce matin par nos confrères du journal Le Monde, conjointement avec 18 autres médias européens, fait état d'une gigantesque fraude, le plus grand scandale fiscal de l'histoire de l'Allemagne, voire de l'Europe. Au total, pas moins de 55 milliards d'euros ont été subtilisés en 15 ans à plusieurs États européens par des financiers opérant en bande organisée sur les marchés, traders, courtiers, avocats, mais aussi banques et fonds de placement dont certaines des plus grandes institutions financières de la planète ont participé à des degrés divers à ce montage financier inédit, tant par sa forme que par son ampleur. Une collusion d'intermédiaires tels que le directeur de l'administration fiscale allemande lui-même aujourd'hui parle de crime organisé.
Ce sont eux les passagers clandestins aujourd'hui?
Les nouveaux passagers clandestins. Le passager clandestin originel, c'était celui de Mancur Olson dans son livre La logique de l'action collective. Mancur Olson dénonçait au fond les passagers clandestins qui étaient, selon lui, les syndicats, les membres des syndicats et des gens qui au fond profitaient des institutions beaucoup trop généreuses de l'État social. Les temps ont complètement changé. Le passager clandestin a franchi la barrière de la lutte des classes et donc se retrouve aujourd'hui du côté, en effet, du top 1%, des multinationales, des gens qui peuvent déplacer leur capital et leurs revenus de façon très importante, enfin très rapide. Et c'est eux, les nouveaux passagers clandestins, qui au fond, en effet, dégoûtent absolument tout le monde de la coopération et notamment du consentement à l'impôt. Et dans l'extrait qu'on vient d'entendre et dans ce scandale, ce qui est très intéressant et fondamental et ce que doivent absolument comprendre les citoyens français, c'est qu'il s'agit de l'Europe. C'est-à-dire que ce scandale-là, comme tant d'autres, naît en Europe. Pourquoi ? Parce que c'est pas la concurrence fiscale et sociale aujourd'hui le fait des îles Caïmans ou de paradis fiscaux très lointains et exotiques. La concurrence fiscale et sociale, c'est un système qui a été inventé en Europe, qui est pratiqué à un degré absolument inégalé dans le monde par l'Europe, parce que l'Europe a inventé un système dans lequel l'Union européenne, le capital circule de façon extrêmement rapide et il n'y a pas d'harmonisation fiscale. Et c'est en Europe qu'on a les taux d'imposition sur les sociétés les plus faibles, c'est en Europe qu'on a les taux d'imposition sur les hauts revenus les plus faibles, et c'est en Europe que le système de concurrence fiscale et sociale a été érigé comme un instrument de discipline des gouvernements. Et c'est ça qui est fascinant avec ce scandale, comme avec tant d'autres, c'est que ça fait 60 ans qu'on est censé coopérer entre États européens sur ces questions-là. On a, en l'Union européenne, tranquillement, douillettement installé au cœur de nos États les plus grands paradis fiscaux
mais
de la planète.
Pourquoi? Alors, c'est de la schizophrénie, parce que dans tout les bouches des responsables politiques, on entend tolérance zéro à l'égard des fraudeurs, on ne laissera pas cette situation d'impunité s'installer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a laissé faire ou même produit cela?
Pour plein de raisons. La raison première, c'est qu'on a fait l'Europe comme un système de discipline économique de la volonté politique. C'est-à-dire que ce qu'on comprend, ce que les pères fondateurs comprennent au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'on en est à 3 guerres civiles européennes, dont 2 ont dégénéré en des guerres mondiales, qu'il faut trouver un moyen absolument radical de contraindre les impérialismes en Europe. Et le moyen qui est trouvé, c'est la discipline par le marché. Et cette discipline par le marché est ce qui est en train de tuer l'Union européenne. C'est-à-dire que regardez un billet de banque aujourd'hui, un billet d'euro, vous n'y verrez ni grandes femmes, ni grands hommes, vous y verrez des ponts et des portes. Et pourquoi des ponts et des portes qui sont même pas des lieux réels, qui sont des lieux abstraits? Parce qu'on se représente l'Union européenne comme un espace de circulation des marchandises et du capital. Et c'est cette discipline économique de la volonté politique qui était le génie initial de l'Europe, qui est en train de devenir le poison de la démocratie en Europe. Et ce scandale n'en est que une illustration supplémentaire. Et c'est, une fois de plus, les nouveaux passagers clandestins, ils ne sont nulle part plus forts que dans l'Union européenne.
Oui, vous dites que ces tricheurs dégoûtent les autres de coopérer, donc ils ne font pas du mal qu'à notre porte-monnaie, ils le font aussi au système tout entier. Est-ce que vous êtes en train de dire, Éloi Laurent, que l'Union européenne est devenue aujourd'hui la place forte de l'anti-coopération?
Oui, en un sens, oui. L'Union européenne est une région du monde dans laquelle les États apprennent à ne pas coopérer entre eux. Regardez ce que fait le gouvernement français à peine arrivé au pouvoir. Regardez ce que fait Emmanuel Macron comme politique fiscale. C'est fondamentalement de la concurrence fiscale et sociale. La première chose qu'il fait, c'est essayer de baisser les impôts pour les expatriés, pour faire venir les traders de Londres à Paris plutôt qu'à Francfort. Ce qu'il a en tête fondamentalement, c'est que le Brexit, on dirait le Brexit est une chance pour refonder le projet européen entre la France et l'Allemagne. Non, non, pas du tout. C'est une chance pour faire de Paris la place financière qui va concurrencer Francfort pour essayer de se partager les restes de la City de Londres. Voilà, c'est ça la mentalité des dirigeants européens. Donc évidemment, c'est une logique non coopérative absolue, et c'est précisément ce qui est en train de tuer l'Union européenne. Il ne faut pas une seconde se tromper. Ce qui est intéressant sur cette histoire des passagers clandestins, c'est que quand vous faites des petites expériences de psychologie sociale, vous avez au fond 3 groupes, sur n'importe quelle question de coopération, 3 groupes qui se dessinent. Le premier groupe, c'est le groupe des altruistes, qui vont toujours coopérer. Le deuxième groupe, c'est le groupe des non-coopérateurs ou des passagers clandestins qui ne vont jamais coopérer. Et puis, il y a un troisième groupe, qui est le groupe des coopérateurs conditionnels. Et ceux-là, ils vont attendre de voir si on respecte ou pas les règles du jeu pour s'engager du côté de la coopération et de la non-coopération. Et ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de faire basculer les citoyens européens du côté, effectivement, des non-coopérateurs. Parce qu'on tolère ces passagers clandestins qui sont en train de tuer l'esprit de coopération en Europe.
Alors, en même temps, vous dites, ce qui est intéressant, c'est que la concurrence n'est pas forcément un gros mot et un principe duquel il faudrait complètement sortir. La concurrence peut aussi être le prologue de la coopération, que vous appelez de vos voeux. Le fait de vouloir la même ressource peut aboutir à un partage équitable. C'est pas la concurrence qui est mauvaise en soi.
Oui, mais c'est pas non plus une glorification de la concurrence. C'est simplement pour dire que l'opposition tant ressassée entre coopération et compétition, entre coopération et concurrence, est en fait beaucoup moins intéressante et beaucoup moins féconde que l'opposition entre coopération et collaboration. Et que la concurrence, étymologiquement, c'est le fait de vouloir la même chose au même moment. Donc ça peut être le prologue à la coopération. Mais je n'exalte pas la concurrence et surtout pas la façon dont la concurrence soi-disant libre et non faussée en Europe est en réalité une concurrence parfaitement organisée et parfaitement faussée et qui conduit à une augmentation des inégalités. Mais simplement, je dis juste qu'il ne faut pas s'en tenir à cette opposition simple entre concurrence et coopération. Je pense que l'opposition beaucoup plus forte, c'est entre coopération et collaboration.
Alors si on voit la coopération comme une vision du monde aussi, et je reste encore sur un exemple européen, le Brexit vu sous l'angle de la coopération, ça donnerait quoi ?
Ah ben, le Brexit vu sous l'angle de la coopération consisterait d'une part à respecter le vote des Britanniques et cesser de dire qu'on va organiser tous les 4 matins un nouveau référendum sans comprendre que ce serait un déni de démocratie absolument terrible. Donc ça c'est le premier point, y compris au Royaume-Uni. On n'arrête pas de vivre dans cet univers parallèle où on va organiser un nouveau référendum. Le jour où le Royaume-Uni fait ça, il n'y a plus de Royaume-Uni. Donc premièrement, respecter la démocratie et deuxièmement, ensuite, trouver des points d'accord si possible autre que purement utilitariste et visant l'efficacité économique avec les Britanniques. Faire des choses utiles ensemble, il y a plein de choses utiles à faire ensemble. Par exemple, la défense européenne. On sait que les Britanniques vont manquer sur ce dossier, qu'il avait plutôt avancé et donc il va reculer. Il y a plein de choses à faire utiles. La question écologique, comment penser qu'on peut se passer d'un pays comme le Royaume-Uni sur la question de la lutte contre le changement climatique. Donc il y aurait plein de choses utiles à faire en termes de bien commun.
Il y a d'autres lieux de la coopération aujourd'hui, Éloi Laurent. La puissance publique en est un, à côté des villes, de l'entreprise ou de grands ensembles, de grandes institutions comme l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'il faut réformer aujourd'hui? Comment introduire ce concept de coopération sociale dans le texte, de bien-être, de soutenabilité? Je crois d'ailleurs que le Sénat s'y était essayé dans les politiques publiques.
Alors, vous avez tout à fait raison. Le Sénat, il y a un sénateur qui a proposé en début d'année d'introduire des indicateurs alternatifs au PIB et à la croissance pour évaluer les politiques publiques, reprenant un certain nombre de propositions qui avaient été faites, et c'est très bien. Ce qu'il faut ne pas faire surtout, c'est considérer que le service public, que la ville, que l'entreprise doivent être rivés aux notions d'efficacité et d'utilité. Je vais prendre l'exemple de la ville. Parce que malheureusement, l'exemple du service public, je crois que tout le monde a compris aujourd'hui que les indicateurs de performance sont en train de tuer le service public. Prenons, on imagine ce que feraient des indicateurs d'audience à une radio comme France Culture. Ça ferait BFM, peut-être. Prenons la question de...
C'est dur pour vous. Je dis rien, là.
Non, c'est dur pour vous.
Je vous laisse.
Prenons la question de la ville. On nous bassine du matin au soir avec cette idée de smart city et de ville connectée. La smart city et la ville connectée, donc soi-disant ville intelligente, c'est une ville simplement rivée à l'efficacité, aux itinéraires à but lucratif, au fait de tout minuter, de tout monétiser, de faire en sorte qu'on sache exactement où vous êtes, ce que vous faites, quand vous passez, quand vous rentrez chez vous, pour pouvoir le monétiser. Qui peut penser une seconde que ça n'est pas une entreprise pour produire des données et les commercialiser? Donc si on va vers ça, il y a des sondages très intéressants qui ont été faits à Paris sur le genre de ville que l'on veut. Les Parisiens disent, on ne veut pas de la ville connectée. Ce qu'on veut, c'est une ville durable et c'est une ville douce. On ne veut pas de la ville connectée. Tout le monde a compris que c'était un piège. Tout le monde a compris. Si vous voulez, aux États-Unis, on en est. Pour vous donner un exemple quand même tout à fait savoureux. On nous bassine aussi avec la question de la domotique et du fait qu'il faut connecter sa maison, son portail, son chauffage, etc. à Internet parce que c'est absolument indispensable, ce qui évidemment est le moyen direct de se faire pirater sa maison et de vivre un enfer. On en est aux États-Unis quand on se sépare, les couples se séparent, à utiliser les objets connectés de la maison pour persécuter la personne qu'on a quittée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui appellent la police en disant « Il fait 40 degrés chez moi, j'arrive pas à régler mon chauffage » ou « Je suis dehors, j'essaye d'ouvrir ma porte depuis 6 heures, je n'y arrive pas » parce qu'en fait, on a vu que c'était des ex-conjoints qui avaient piraté les objets connectés en question. Donc évidemment que c'est une folie. Avoir sa voiture connectée, c'est évidemment une idiotie totale.
Rêver.
Non, mais c'est pire que ça, c'est un cauchemar.
Éloi Laurent, il nous reste une minute. La coopération n'est pas innée, rappelez-vous. Coopérateur, on le devient. Pourquoi choisir aujourd'hui de coopérer plutôt que de faire cavalier seul? Vous dites qu'il faut à la fois une aptitude, mais aussi une appétence quand même à coopérer. Quelles seraient les bonnes raisons à nous donner?
Les bonnes raisons, c'est que c'est...
Et de croire en nous, en la nature humaine, pour aller vers plus de coopération.
Les bonnes raisons, c'est le bien-être et la soutenabilité. Les bonnes raisons, c'est que ce qui fait qu'une vie est une vie agréable, c'est le contact des autres humains, ceux qu'on aime, ceux avec qui on n'est pas d'accord, et que fondamentalement, tout ce qui sépare les humains est fondamentalement la destruction de la prospérité humaine, y compris au niveau individuel. Donc la bonne raison, c'est le bien-être, et le bien-être, la clé du bien-être, c'est fondamentalement la coopération. Et l'autre bonne raison, c'est qu'on a besoin aujourd'hui de la coopération, on a besoin de la continuité sociale pour affronter les transitions qui sont devant nous. On ne peut pas s'enfermer aujourd'hui dans des sociétés d'intermittence, dans des sociétés où on se voit à éclipse, où on se comprend à éclipse, où l'attention est en permanence phagocytée par les outils numériques. Moi, je crois que la chose la plus spectaculaire, c'est l'image des piétons qui ont le regard rivé vers le sol et qui ne regardent plus en l'air pour rêver, qui ne regardent plus en face d'eux pour voir les autres et qui sont totalement rivés. Comment penser qu'on va pouvoir faire des transitions dont on a besoin avec des gens qui, y compris, ne se regardent plus?
Voilà, ça c'est au niveau micro, et au niveau macro, c'est vraiment cette réforme, grande réforme institutionnelle à laquelle vous appelez de lutte contre les paradis fiscaux, réforme du système fiscal aujourd'hui et social à mener en Europe. On verra si ce sera au programme des partis pour les futures élections, pour le scrutin européen qui se tiendra donc l'an prochain. Grand merci à vous Éloi Laurent.
Merci à vous.
Je rappelle donc le titre de votre essai, l'impasse collaborative qui vient de paraître au lien qui libère. Merci à toute l'équipe de La Grande Table pour cette belle belle semaine à Maya Neskovic avec Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des Idées, à Oriane Delacroix et Iseut Sicard pour la Grande Table Culture, avec l'aide toujours précieuse de Jeanne Copé et de Jordan Joseph. À la réalisation aujourd'hui, c'était Milena Hellig avec Nicolas Delmas. Très bel après-midi à tous sur France Culture et je vous dis lundi pour une nouvelle semaine et une nouvelle Grande Table.